faire.
C'est vous qui le dites, présenté par la rédaction de Radio U.
Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le 8 décembre et vous écoutez C'est vous qui le dites, la quotidienne d'info locale et citoyenne de Radio U sur le 101.1 FM. On a tous entendu parler, un jour ou l'autre, de la loi de Jules Ferry de 1882 qui a rendu l'école obligatoire. Mais en réalité, ce n'est pas l'école qui est obligatoire, mais l'instruction. Si des modèles alternatifs existent, ils ne sont pas très connus, même en danger, notamment avec le projet de loi sur le séparatisme d'Emmanuel Macron. Alors, avant qu'il ne soit trop tard, et pour comprendre de quoi il s'agit réellement, rendez-vous avec Aurélie Apriou, qui a choisi le modèle d'instruction en famille pour son fils, et avec qui on discute au téléphone. Bonjour Aurélie Apriou.
Bonjour.
Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quelques mots ce que c'est l'instruction en famille ?
L'instruction en famille, c'est le fait de faire l'instruction au sein de son domicile, ou en tout cas ne pas la faire à l'école, on va dire ça comme ça. Voilà, c'est un choix qui s'offre à tous les parents et tous les enfants en France aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on peut soit choisir de mettre son enfant dans une école, alors une école publique ou une école privée, ou une école privée hors contrat, ou faire l'instruction au sein de la famille. Voilà.
Et dans quel contexte vous avez entendu parler de l'instruction en famille pour la première fois ?
Waouh, je ne sais plus. Ça fait un moment, je pense. Parce que mon fils a 5 ans et demi, donc il n'est jamais allé à l'école. Au départ, moi, je me suis pas mal intéressée aux écoles démocratiques, en fait, qui sont basées sur les apprentissages autonomes. Et au final, il n'y en avait pas dans le coin. Enfin, il y en avait une à Quimper, mais du coup, nous, on est de Brest, donc voilà, pas dans le coin. On avait travaillé au montage de cette école, mais c'est assez compliqué. Il faut des finances, il faut trouver un local, etc. Et en attendant, en fait, on a pratiqué la même pédagogie, mais au sein de notre famille, en fait, ça s'est fait presque naturellement, j'ai envie de dire, quoi. Mais est-ce que j'ai entendu parler, je sais pas. J'ai dû lire des choses là-dessus, je pense. Ouais, j'ai lu des bouquins dessus, quoi. Puis j'ai rencontré aussi des personnes qui le pratiquaient, en fait.
Et on parlera des écoles démocratiques juste après, mais est-ce que vous aviez des a priori avant de vous renseigner plus sur ce que c'est, sur comment ça fonctionne, etc.
Non, je me souviens pas d'avoir eu des a priori, non. Non, parce qu'en fait, je connaissais déjà les personnes qui le pratiquaient, en fait. Donc, c'était surtout de l'expérience, quoi, pas d'a priori, quoi.
Et donc, du coup, pour revenir sur les écoles démocratiques, donc là, vous expliquez que le choix de ne pas forcément mettre votre enfant dans une école démocratique, c'est plus une question de localisation. Mais du coup, c'est quoi la différence ? Est-ce qu'il y a une différence qui existe réellement entre les écoles démocratiques et l'instruction en famille ?
Ouais, forcément, parce que déjà une école démocratique, c'est au sein d'un lieu spécifique avec des horaires. Voilà. Après, au niveau de la pédagogie, ça dépend. Parce que moi, je parle de mon expérience d'instruisant en famille. Hein. Parce que nous, chez nous, on pratique la même pédagogie que dans les écoles démocratiques, à savoir l'éducation autodirigée. Mais il y a autant de formes d'instruction en famille que de familles instruisant en famille. Il y a des personnes qui suivent par exemple ce qu'on appelle CPC, des cours par correspondance. Donc en fait, ils reproduisent un peu, on va dire, la pédagogie traditionnelle qu'on retrouve dans les écoles classiques au sein de la famille, quoi. C'est une des formes d'instruction en famille aussi. On peut retrouver la pédagogie Montessori, du Steiner, enfin voilà, on peut retrouver un peu toutes les pédagogies diverses et variées au sein des familles IEF, on dit du coup instruction en famille. Voilà, nous, dans notre famille, on utilise la même pédagogie que les écoles démocratiques. Ouais.
Et du coup, qu'est-ce qui vous a parlé, qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette manière d'instruire qui, du coup, est vraiment loin de l'école classique ?
Le respect des besoins de la personne, en premier lieu. Le respect de son on va dire, de sa responsabilité aussi. En fait, pour moi, il est responsable de... Enfin, mon fils, hein, et les personnes qui sont instruites de cette façon-là, sont responsables de leur instruction, de leur vie, en fait. On considère que, hein. Et je trouve ça important de montrer qu'à n'importe quel âge, on est responsable de son corps, de sa vie, de son instruction, tout en étant accompagné par des personnes... bienveillante autour et dans un environnement qui effectivement est plutôt riche quoi. Après ça c'est notre rôle à nous en tant que parents instructeurs de mettre en place un environnement riche, que ce soit un environnement riche matériellement ou humainement, s'il y a besoin de d'avoir recours à des personnes qui ont des connaissances que moi je n'ai pas par exemple. Voilà.
Et du coup, pourquoi ce choix ? Parce que même si ça vous intéresse beaucoup, il y a des gens qui sont très intéressés, mais qui ne font pas non plus, qui ne vont pas jusqu'à la démarche de l'IEF.
Pourquoi le choix ? Pourquoi ce choix ? Nous, ça nous semblait le plus judicieux dans notre façon de fonctionner, le plus judicieux aussi, le plus en correspondance avec la personne qui est mon fils. Voilà, en fait, on s'est pas trop posé la question de l'emmener entre guillemets à l'école, parce que c'est lui qui va choisir, mais bon, c'est arrivé une fois qu'il est demandé d'aller à l'école, on a fait les démarches pour aller dans ce sens-là, mais bon, il a finalement ça l'intéressait pas. Ouais, pourquoi ce, je sais pas, parce qu'on se sentait bien de le faire comme ça quoi, je sais pas.
Et est-ce que, enfin, même si les journées, j'imagine, ne sont pas forcément toutes similaires, est-ce que ce serait possible de nous décrire une journée dans votre peau en tant que parent en instruction en famille ?
Ouais, ça va être un peu difficile parce que c'est vrai qu'elles se ressemblent pas beaucoup les journées. Mais nous, notre journée, enfin voilà, on se lève, ben, on se lève quand on est réveillé. On lit beaucoup. Voilà, enfin en tout cas avec Aubin, on lit beaucoup. Et moi, donc, c'est ce que j'expliquais un peu avant, c'est que mon rôle, ça va être de l'observation beaucoup, donc je le regarde beaucoup faire, agir, je vois qu'est-ce qui l'intéresse ou qu'est-ce qui l'intéresse pas. Aujourd'hui, par exemple, il est beaucoup intéressé par les chiffres, par voilà, l'addition, les soustractions, ça le fait marrer, quoi, il fait des jeux là-dessus. Donc, bah, moi, qu'est-ce que je fais? Je mets à disposition du matériel concernant les jeux. Donc, il a les jeux de calcul, quoi. Il a un boulier qu'il utilise pour additionner et soustraire. Il a des livres de mathématiques. Voilà. Moi, mon rôle, c'est ça, quoi. En fait, c'est d'observer, de réfléchir à ce que je pourrais mettre en place pour que ça intéresse, qu'il le prenne en main et voilà, qu'il aille plus profondément dans l'apprentissage qu'il est en train de faire. On écume beaucoup les bibliothèques de Brest aussi, donc on va visiter une bibliothèque et voilà, par exemple la semaine dernière j'y suis allée, il n'était pas avec moi, mais bon il me dit voilà, moi je veux un livre sur donc il y a plusieurs centres d'intérêt, donc il voulait un livre sur les Romains, donc il est très intéressé par l'histoire également, donc la Rome antique, le Moyen-Âge et sur le hockey sur glace également, parce qu'il... Alors nos journées sont aussi beaucoup rythmées par cette activité parce qu'il y a énormément d'activités en temps normal, évidemment, parce que là c'est un peu compliqué, mais en temps normal c'est ça. Il a une activité extérieure chaque jour, voire deux parfois, du lundi au samedi, donc c'est déjà pas mal rythmé par ça. Quoi.
Et du coup, est-ce que, parce que là de ce que vous disiez, c'est beaucoup d'autonomie, c'est beaucoup d'indépendance, mais est-ce que dans les... Il y a quand même certaines fois où vous pouvez prendre des choses du programme scolaire classique. Bon, là, il a 5 ans et demi, c'est ça, donc il est encore jeune. Mais par exemple, est-ce que pour la suite, vous avez voilà, prévu de prendre de piocher un peu dans le programme classique ou pas du tout ?
C'est pas le propre de la pédagogie qu'on met en place, non. Maintenant, tout ce qu'on retrouve dans le programme scolaire classique revient forcément dans l'apprentissage. Enfin, en tout cas, c'est ce que nous, on voit d'expérience aujourd'hui, chez nous et dans d'autres familles hein, qui sont aussi... qui pratiquent aussi la même chose, quoi. Voilà, après, mon rôle aussi, de par l'obligation qu'on a aujourd'hui en France de contrôle et d'inspection nationale, enfin, on reçoit l'inspection nationale une fois par an, des inspecteurs d'éducation nationale, pardon, une fois par an chez nous. Et donc, mon rôle aussi, c'est de traduire ce que lui apprend en langage... programme scolaire, quoi. Parce que de toute façon, on va les retrouver forcément. Enfin, là, je vous disais, par exemple, que ce soit les, sa passion pour l'histoire, ben, c'est des choses qu'il acquiert sans même que moi je fasse quoi que ce soit. Mais on va les retrouver dans les programmes scolaires, quoi. Et ça, c'est mon rôle aussi de faire la traduction, on va dire, entre ces apprentissages et ce qui est écrit dans le socle commun connaissances, compétences et culture, quoi.
Et en commençant, vous n'avez pas eu peur que vos connaissances en histoire, en mathématiques ou toutes les matières, on va dire, un peu classiques qui sont enseignées habituellement à l'école finissent par ne plus être suffisantes pour accompagner votre fils? Parce que bon, là, il a 5 ans et demi, donc ça va encore, mais pour la suite?
Non, j'ai pas peur. J'ai pas peur de ça parce que, comme je vous disais, si vraiment il y a des questionnements auxquels je peux pas répondre, ben on va rencontrer des gens qui pourront lui répondre simplement. On va aller chercher. Et si il a besoin d'enseignement spécifique et qu'il le demande, ben on fera aussi. Il trouvera des professeurs. Là, il apprend l'anglais. Moi, je suis pas bilingue en anglais. Hein, je parle pas l'anglais. Enfin, le peu que j'ai pu apprendre à l'école, d'ailleurs. Mais voilà, il prend des cours d'anglais parce que ça l'intéresse. Mais il prend des cours d'anglais à l'extérieur de chez nous. Mais s'il a besoin d'un instituteur ou d'un professeur pour quoi que ce soit, ben on va le chercher ensemble. Mais non, moi, j'ai pas peur de pas être à la hauteur. Il est évident que je connais pas tout, mais aucun instituteur, aucun professeur connaît tout, en fait. Et enfin, personne connaît tout, en fait. Donc, le but, c'est simplement d'accompagner. Moi, mon but, c'est simplement de l'accompagner lui ou d'accompagner la personne vers ce qui l'intéresse. Et s'il veut y aller de plus en plus profondément, il ira. Tout ce qui est, par exemple, sur les étoiles, etc. Bon, moi, je sais pas, il y a l'astronomie, pas trop mon truc, mais. Il y a une asso qui est pas loin et qui est une asso d'astronomie qui regarde les étoiles machin. Ben voilà, il va aller vers cette association-là. Il va rencontrer des gens qui sont passionnés, qui connaissent plein de trucs et ils vont échanger là-dessus. Quoi. Donc j'ai pas peur de ça.
Et comment on fait pour que son enfant se sociabilise alors qu'il va pas à l'école et qui est souvent considéré comme le grand lieu de sociabilisation?
Ouais, c'est considéré comme ça, ouais. Bon, il y a plein de façons, comme je vous disais, il a des activités tous les jours. Il fait du hockey sur glace deux fois par semaine. Il fait du BMX deux fois par semaine. Il fait de l'escrime, donc il a plein de copains à chaque endroit, copains, copines d'ailleurs, de tout. Alors c'est souvent ça, quoi, de tout milieu sociaux ou ethniques ou peu importe, parce que c'est souvent ce qu'on nous dit. Oui, ils vont rencontrer que des enfants comme eux. Ben en fait, non. Quand tu vas dans une association, tu rencontres les gens qui sont dans l'asso, quoi, peu importe de quel milieu ils sont, quoi. Et voilà, après, il fait de la batterie, il fait de l'anglais, comme je vous disais, il n'est pas tout seul, hein, il fait de l'anglais avec un groupe d'autres personnes. Donc la socialisation, il n'y a aucun souci là-dessus, que ce soit par ce biais-là. Nous, on est dans un quartier à Kerguate, il y a une cour en bas de chez nous, bon ben voilà, tous les mercredis après-midi, samedi, dimanche, il est en bas avec tous les autres enfants du quartier. Et la plupart vont à l'école, voire tous même, je pense. Et voilà, c'est des personnes. Enfin, il est totalement intégré dans la vie sociale du quartier, de la ville. Puis il rencontre. Enfin, nous, on rencontre évidemment aussi beaucoup d'autres familles IEF, quoi. Parce que sur des temps scolaires, il y a moins possibilité de rencontrer des copains ou des copines. Mais il y a énormément de familles IEF en Finistère. Il y en a environ 300, je crois. Et donc, on en connaît pas mal, quoi. Rien que sur Brest, on en connaît peut-être une 10-15, donc voilà.
Et même si, voilà, il y a différentes formes d'IEF, est-ce que une partie des familles qui font l'instruction en famille ont cette idée qu'aux 18 ans de l'enfant, enfin, à peu près autour de cet âge-là, l'enfant passe le bac comme s'il avait été à l'école normale?
Ça dépend vraiment des types de pédagogie utilisée. Il y a pas mal, ouais, qui sont en CPC, comme en cours par correspondance ou en formel, qui passent le brevet, le bac classique, en fait, hein, qui suivent tout à fait les étapes du programme scolaire. Après, ben chez nous, ça va être l'enfant qui va décider s'il a besoin de passer le brevet, besoin de passer le bac. D'expérience, on voit que ce sont des choses qui se font parce que, étant donné le système scolaire actuel en France, si on veut poursuivre des études, on n'a pas vraiment d'autre choix que de passer un bac. Enfin, ou alors un CAP ou un BEP, peu importe le diplôme, mais en tout cas un diplôme qui va permettre de passer une étape supérieure ou d'avoir un métier, ou peu importe. Il n'y a pas d'autre moyen de faire en France aujourd'hui. Donc évidemment que les enfants qui arrivent à ces âges-là vont le faire en fonction de leur choix de vie après, quoi. C'est ce qu'on voit en façon d'expérience, que l'enthousiasme en fait mène à enfin, en tout cas, même ce type d'enfants qui ont été éduqués, enfin, instruits de cette façon, mène à des passions, en fait, des passions spécifiques vers un métier, je dis, non, je sais pas quel métier, peu importe, n'importe lequel. Et que du coup, cet enthousiasme va créer une très forte motivation intrinsèque. Cette motivation va permettre de passer des diplômes, des concours. De la même façon que les personnes qui auraient été à l'école pendant plusieurs années pour le travailler. On l'a vu notamment, on l'a bien vu notamment à l'école démocratique de Quimper, où il y a des personnes qui passaient les bacs en candidat libre et voilà, ils travaillaient pour ça pendant un temps, selon leur mode de fonctionnement, selon leur mode d'apprentissage, et puis ils y arrivaient. Dans toutes les écoles démocratiques françaises, c'est pareil d'ailleurs.
Et est-ce que après, dans la vie professionnelle, il n'y a pas un écart, soit au moment de l'entrée dans la vie professionnelle, soit une fois la vie professionnelle vraiment installée, entre les personnes qui ont suivi un cursus qui est classique et les personnes qui, justement, ont fait de l'instruction en famille?
Un écart, ça dépend par rapport à quoi. On voit que, alors notamment par rapport aux États-Unis, parce qu'en France, il n'y a pas beaucoup de recul au niveau études, etc. là-dessus. Mais aux États-Unis, beaucoup plus, puisque c'est beaucoup plus. C'est rentré dans les mœurs depuis très longtemps. Alors, j'ai plus la proportion d'enfants instruits en famille, mais il y a une grosse proportion d'enfants instruits en famille aux États-Unis, et d'écoles démocratiques aussi d'ailleurs. Et les différences qu'on voit, c'est surtout une capacité d'adaptation des personnes qui ont été instruites en famille, notamment par le biais de l'éducation autodirigée. C'est qu'il y a une grande capacité d'adaptation de la part de ces personnes-là, quoi. Parce qu'elles n'ont pas été conformées à un mode d'éducation assez strict, ou qui est mode d'instruction assez strict, pardon, qui est l'instruction on appelle descendante, quoi, où il y a toujours une personne qui va décider pour l'élève de ce qu'il va faire. Donc on est plutôt dans une posture où on se laisse faire, on se laisse guider, et tandis que l'éducation autodirigée, on est beaucoup plus acteur de sa vie, acteur de cet apprentissage, et du coup quand on devient adulte, ben, on reste acteur en fait, et il est beaucoup plus facile de s'adapter, d'être force de proposition, etc., quoi. C'est ça qu'on voit, en tout cas, sur les études américaines. Ce type de personnes instruites en famille ou, en tout cas, utilisant l'éducation autodirigée, très recherchées dans les grandes écoles américaines, style Harvard, etc., quoi.
Et pour revenir sur vraiment le comment on fait, est-ce que vous pourriez nous parler des outils que vous ou que des familles que vous connaissez utilisent pour justement instruire vos enfants, donc parce que là tout à l'heure vous parliez des cours, j'imagine qu'il y a le CNED, etc., mais est-ce qu'il y a d'autres outils qu'on peut ne pas connaître quand on est extérieur à ces milieux-là?
Je sais pas trop quoi répondre là, parce qu'effectivement il y a des cours par correspondance. Alors je dis le CNED, mais il y en a d'autres, des cours par correspondance, j'ai pas les noms en tête, mais il y en a pas mal. Après, les outils que nous on utilise, c'est tout ce qui existe, c'est des méthodes pédagogiques, comme bah, par exemple pour la méthode de lecture, on va retrouver la méthode des alphas, on va retrouver, c'est Céline Alvarez qui a écrit là-dessus dernièrement, il y a 5-6 ans, qui met en place des outils à manipuler avec les lettres, etc., pour la lecture. Il y a, alors là, je parle des plus jeunes parce que moi, je suis dedans maintenant, mais après, on va trouver la méthode des frères Lyon, par exemple, pour les mathématiques, les réglettes Kuisner, les chiffres Regueux de chez Montessori. Il y a énormément de supports possibles pour rentrer dans un apprentissage ou un autre, quoi que ce soit, lecture, écriture, mathématiques, plein de trucs, quoi. Mais après, c'est vrai que j'imagine que là, ce que j'ai énuméré, ça ne doit pas vous parler beaucoup, mais mais c'est parce que c'est en cherchant. En fait, quand on rentre dans l'instruction en famille, ben on va chercher en fait. Et c'est à disposition. La méthode des frères Lyon, elle est gratuite sur Internet. Hein. Par exemple, il y a de tout. On peut trouver pour tout le monde, pour tous les budgets, pour tous les façons d'apprendre aussi, parce que bon, aujourd'hui on parle beaucoup de tout ce qui est les 10, les 10 calculés, l'orthographie, etc. On a aussi des méthodes spécifiques pour les 10. Voilà, il existe plein de trucs, quoi.
Et je sais que pendant le premier confinement, il y a eu pas mal de comparaisons qui ont été faites entre justement le premier confinement qui a amené à ce que les enfants ne soient plus scolarisés à l'école, mais du coup chez eux, et l'IEF, donc l'instruction en famille. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette comparaison ?
Je sais pas, j'ai pas fait trop attention à ça. Pour moi, il n'y a pas vraiment de comparaison parce que, en fait, si j'ai bien compris, en fait, durant le confinement, les enfants qui étaient scolarisés recevaient des devoirs de la part de leurs instituteurs ou leurs professeurs ou autres. Et les familles, enfin les parents, du coup, accompagnaient leurs enfants dans ces apprentissages-là, c'est ce que j'ai compris. Donc, après, peut-être qu'on peut comparer ça effectivement à du CPC, à du cours par correspondance. En fait, c'est à peu près la même chose. D'après ce que moi j'en vois des familles qui pratiquent l'instruction en famille via les cours par correspondance, effectivement, on reçoit par internet ou par courrier des devoirs, des cours, des supports. Et les familles les utilisent et les parents accompagnent leurs enfants là-dedans. Donc peut-être qu'effectivement, certains, ou même pas mal de parents d'enfants scolarisés ont vécu ce que vivent les familles en CPC, ouais, c'est possible.
Et on continue juste après avoir écouté Blue Skies de Birdie. Sur le 101.1 FM dans l'émission C'est vous qui le dites, et c'était le titre Blue Skies de Birdie. On continue l'entretien téléphonique avec Aurélie Apriou qui nous parle de l'IEF, autrement dit l'instruction en famille, dont elle a fait le choix pour son fils. Est-ce que vous savez si tous les milieux sociaux pratiquent l'IEF, et si c'est le cas, est-ce qu'il n'y a pas un risque que, enfin, est-ce que l'IEF donne pas le Enfin, ne crée pas le risque d'un déséquilibre entre les familles selon si elles ont de l'argent, selon les connaissances culturelles qu'elles ont.
Alors, à ma connaissance, il y a de tous les milieux sociaux. Enfin, en tout cas, moi, je connais des familles de tous milieux sociaux en IEF. Je pense que c'est la même chose qu'à l'école, en fait. C'est-à-dire que les milieux sociaux, que ce soit à l'école ou en IEF, forcément, ça va jouer. C'est une évidence. Ça va jouer, surtout au niveau du capital culturel, par exemple. Chez nous, on est plus intéressé par... je ne sais même pas de quel milieu social on doit être, genre 4 moyennes, quoi, je pense. Mais après, on fait en fonction de ce qu'on est, de la culture qu'on a reçue, et c'est une évidence que ce qu'on va transmettre, c'est par rapport à ça. Tout comme dans les écoles, la plupart du temps passé par les enfants, c'est en famille, et on sait bien que l'école est une grande reproductrice des inégalités sociales. Donc, je pense pas qu'il y ait grande différence. Ce que moi, je vois, c'est que dans les rassemblements IEF, etc., on retrouve de tous les milieux sociaux et de tous les milieux culturels. Donc, les enfants ont aussi cette opportunité de rencontrer des personnes de tous les milieux sociaux et peuvent aussi se rapprocher de tel ou tel adulte si c'est plus leurs intérêts. Je pense pas que ça change grand-chose entre école et IUF au niveau des inégalités sociales. Je pense qu'il n'y a pas grande différence, quoi.
Mais parce que, par exemple, pour l'école classique, enfin vraiment l'école publique, etc., c'était gratuit, si on compte pas la cantine et toutes ces activités-là. Mais là, de ce que vous disiez, votre fils fait beaucoup d'activités en semaine. C'est des choses qui, a priori, ne sont pas gratuites. Et c'est aussi comme ça qu'il apprend. Et ça, j'imagine que ça dépend quand même beaucoup des familles et du revenu qu'elles peuvent avoir. Donc justement, là, si on se concentre vraiment sur l'argent et sur cette notion de revenu, est-ce qu'il n'y a pas quand même un risque que ça crée plus d'inégalités que l'école classique ?
Je pense pas, non, parce que, enfin, alors là, c'est un avis perso, hein, j'ai pas d'études qui appuient ce que je pense moi, mais nous, on est une famille de trois, on a un salaire pour trois personnes, donc on peut pas dire qu'on ait beaucoup de revenus, parce que c'est un salaire très moyen. On n'a pas plus de revenus que ça, mais peut-être qu'on va vivre différemment aussi. Nous, et je pense notamment à pas mal d'autres familles aussi autour de nous, qui vont concentrer l'aspect financier là-dessus. Ça, c'est la première chose. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui ne coûtent pas excessivement cher. Au bain fait du hockey sur glace, ça coûte 50 euros par an. Pour moi, c'est pas excessif, et je pense qu'il y a beaucoup de familles qui peuvent se le permettre, par exemple. Donc peut-être aussi choisir des activités en fonction de ça. On va à la bibliothèque, je le disais très régulièrement, la bibliothèque, c'est gratuit en fait. Pour nous, c'est gratuit parce que nous, selon les moyens, quoi. Donc voilà, les musées, de nombreux musées sont également gratuits, alors très peu chers. Je pense qu'il y a vraiment moyen de trouver. Il y a aussi notamment si on cherche des jeux éducatifs ou autres, d'ailleurs des jeux, mais les médiathèques de Brest aujourd'hui prêtent les jeux. Donc, les jeux, ou même, on peut retrouver des supports d'ailleurs pédagogiques chez eux, qui sont en prêt. Et aussi au sein des collectifs IUF, on peut trouver, on se prête aussi beaucoup des choses en fait. Les supports, je parle là, hein, parce que ça a aussi un coût évidemment, les supports. Mais selon les âges, chez nous, on va plus se servir d'un truc parce que voilà, l'acquisition a été faite. On va le passer à une autre personne, à une autre famille qui est dans cette style d'acquisition là, en fait. Je pense pas qu'il y ait grande différence parce que en fait, au sein de l'école, les apprentissages se font pas du tout de la même façon, en fait.
De ce que je comprends, l'instruction en famille, c'est que ça demande quand même pas mal de temps, même si il y a toute une partie qui est de l'observation juste observer l'enfant qui s'intéresse à des choses différentes, etc. Mais est-ce que l'instruction en famille est conciliable avec le fait que les deux parents travaillent et notamment à temps plein?
Il y a des familles qui y arrivent, ouais. Chez nous, on fonctionne pas comme ça, mais il y a de toutes sortes. Il y a des familles monoparentales, notamment, où personne ne travaille, du coup, là, le parent ne travaille pas. Il y a des familles où les deux parents travaillent, mais du coup, c'est une organisation spécifique. Je sais pas, il y a un parent qui travaille le soir et le week-end, par exemple, ou moitié de la journée, un parent est là, l'autre moitié, c'est l'autre. Il y a plein de sortes de... Il y a vraiment toutes sortes d'organisations, quoi.
Et dans l'optique où il y a un parent qui travaille, est-ce qu'il y a et que l'autre ne travaille pas et s'occupe de l'enfant, est-ce qu'il n'y a pas un risque que ça intensifie les inégalités hommes-femmes au niveau du travail et que du coup c'est plutôt en priorité la mère qui arrête sa carrière, son travail au profit de l'homme qui continue à travailler?
Ça, je peux pas vous dire. J'ai pas forcément de retour là-dessus. J'essaie de faire un peu le tour des personnes que je vois autour de nous, mais il y a beaucoup de familles monoparentales, alors du coup je sais pas, je pense qu'il faudrait étudier le phénomène. Après est-ce que je sais pas, je pense qu'il y a aussi un changement de paradigme à faire sur ce point-là, quoi, parce qu'en fait c'est aussi une volonté personnelle de fonctionner comme ça dans notre vie. En fait, c'est pas forcément quelque chose en lien avec le travail ou l'emploi. C'est un mode de vie aussi particulier qu'on a décidé. Et en fait, moi, pour mon exemple personnel, moi, je reprendrai à travailler. J'aurai aucun souci là-dessus. Moi, je suis formatrice. Et prochainement, en fait, on est en cours d'acquisition d'un lieu où j'aurai un espace pour travailler là-dessus. Et même si mon fils est là, alors évidemment, là, il grandit aussi. À 2-3 ans, je sais très bien que c'est pas possible, en fait. Mais aujourd'hui, il demande moins d'attention journalière, on va dire. Donc, il y a des créneaux qui peuvent se dégager, etc. Ça, c'est moi, mon souhait, mon envie à moi. Mais c'est tout à fait possible de travailler tout en ayant ses enfants instruits en famille, si on le souhaite. Après, c'est pas forcément un souhait non plus de la personne, quoi.
Et je me demandais, est-ce qu'il y a des raisons assez communes, semblables, chez les personnes qui choisissent l'instruction en famille?
Ouais, en France, il y a une grosse proportion qui choisissent l'instruction familiale par à la suite du harcèlement scolaire subi par les enfants ou également de phobie scolaire, en fait. On est vraiment beaucoup là-dessus. Et une grande partie aussi qui... Ben, ça va être les deux pans, quoi. Soit il y a une situation difficile, donc harcèlement scolaire, phobie scolaire, soit il y a un choix pédagogique totalement différent de l'éducation nationale, quoi. Ça va être vraiment les deux grosses raisons qu'on retrouve dans les familles.
Et en termes de profil d'enfants, là, avec ce que vous avez pu voir dans les familles autour de vous, est-ce que c'est des profils qui sont assez similaires ou pas du tout?
Par rapport à quoi? Similaires par rapport à quoi?
Au niveau, je sais pas, du caractère des enfants, au niveau de... Enfin, on y reviendra après, mais la question des enfants handicapés, etc., ou des enfants 10, enfin, tous ces profils un peu. Enfin, je sais pas, est-ce qu'il y a une majorité de profils un peu atypiques chez les enfants ou pas forcément?
Ben, en fait, comme on se retrouve pas forcément au sein de l'école, on va pas forcément mettre ces étiquettes-là sur les enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'au sein d'une instruction traditionnelle, pour que chacun s'y retrouve, il faut effectivement qu'on comprenne comment il fonctionne dans l'apprentissage spécifique, enfin, un apprentissage en fonction de la méthode traditionnelle, quoi. Mais du coup, comme, enfin, moi, beaucoup de personnes que je connais en instruction famille suivent les apprentissages personnels des enfants, en fait, sont plutôt en autogéré. Donc on n'a pas besoin de faire la distinction entre des 10 ou un trouble autistique ou ce qu'on appelle TDAH, trouble d'attention, etc. Alors, sauf si effectivement on constate à un moment donné une problématique dans l'apprentissage, mais j'ai pas vu beaucoup. Ce que j'ai vu, c'est plutôt effectivement des personnes qui sortent du système scolaire par rapport au fait qu'ils étaient reconnus au potentiel ou 10, quelque chose, ou TDAH, pour lesquels c'est au sein de l'instruction, de l'éducation nationale, c'est beaucoup plus compliqué, donc ils en sortent, quoi. Donc oui, effectivement, ceux qui en sortent pour ces raisons-là, donc ça découle souvent ça en une phobie scolaire, quoi, au final, en fait.
Et je voulais revenir sur ce qu'a dit Emmanuel Macron. Donc, il avait un projet de loi contre le séparatisme où il expliquait qu'il comptait largement réduire et contraindre la part d'enfants suivant l'instruction en famille à la rentrée 2021. Bon, il y a plusieurs aspects. Mais voilà, il disait qu'il y aurait une exception qui serait faite pour les enfants malades et handicapés qui, du coup, suivent une instruction en famille. Est-ce que c'est une part importante des enfants? Enfin, je ne sais pas si vous savez, mais voilà... De tous les enfants qui suivent l'IEF, est-ce que c'est une part importante, les enfants malades et handicapés?
C'est la moitié. 25 000 sur 50 000 à peu près.
D'accord. Et pour continuer toujours sur ce que disait Emmanuel Macron, sur le pourquoi ce projet de loi, il a notamment cité comme raison les parents qui font ce choix pour des raisons religieuses, en parlant notamment d'islam et de sa crainte d'un renforcement de l'islamisme radical. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça?
Je pense qu'il devrait se renseigner au sein de EduSchool, par exemple, qui est le site du service public d'éducation nationale, qui dit, enfin c'est inscrit, hein, vous pouvez aller lire, hein, suite aux inspections des inspecteurs de l'éducation nationale, donc apparemment au sein de l'IEF, il y aurait 1,4% des familles qui font ce choix pour des raisons religieuses. Mais alors toutes religions confondues, hein, sachant qu'ici, par exemple, sur Brest et alentour, on retrouve pas mal de familles catholiques qui le font aussi pour des raisons catholiques. Donc sur les 1,4%, donc on voit quand même que c'est très peu, on retrouve de toutes les religions, ça c'est la première chose. Ensuite, on retrouve également une phrase sur le site d'EduSchool, hein, sur le Vademécum, qui date de octobre 2020, hein, donc c'est quand même assez récent, qui dit que suite aux inspections, quoi, que les cas de suspicion de radicalisme sont exceptionnels au sein de l'instruction en famille. Donc, je ne sais pas sur quoi il s'appuie pour dire ça, mais en tout cas, ce n'est pas sur les études de l'éducation nationale.
Parce que là, du coup, on parlait de l'islamisme radical. Un des risques qu'on peut voir aussi, c'est tout ce qui est dérive sectaire. Donc même si ces risques-là sont très très faibles, et comme vous l'avez dit, ça représente un pourcentage qui est très faible, c'est quelque chose qui arrive quand même, qui existe. Est-ce que vous avez des solutions à proposer plutôt que, enfin, à la place de simplement réduire et contraindre, enfin voilà, de réduire le nombre de personnes qui peuvent faire de l'instruction en famille?
Des solutions, moi je vais pas, enfin je sais pas. Pour moi, l'interdiction n'est pas forcément une solution, parce que je pense pas, enfin en tout cas il faudrait vérifier, mais je pense que au sein de l'école de la République, il y a autant de personnes qui sont en risque de radicalisation islamique ou sectaire, ou peu importe, je sais pas comment elle s'appelle, qu'en IEF. Donc ça concerne absolument tout le monde et pas simplement l'IEF. Des lois existent déjà, notamment la loi de l'école pour la confiance qui a été qui date de l'année dernière, donc qui date d'un an. Déjà il faudrait peut-être commencer par l'appliquer correctement, c'est la première chose. Parce qu'apparemment toutes les familles IEF ne sont pas contrôlées, donc ça, on ne peut rien. La loi, elle existe, on doit être contrôlé. Si les services de l'éducation nationale ne contrôlent pas, peut-être qu'il faudrait commencer par ça. Sachant qu'aujourd'hui, nous, en tant que famille IEF, on peut être contrôlé de façon inopinée. Un inspecteur d'éducation nationale peut débarquer aujourd'hui, maintenant, chez moi, s'il le souhaite, quoi. Donc, si on peut le faire de façon inopinée, ça me semble assez difficile de cacher des dérives, quelles qu'elles soient, quoi. Voilà, après des propositions, après lui il y en avait des propositions, il avait la proposition de l'identifiant national de l'élève, pourquoi pas que chaque enfant ait un identifiant et que du coup il soit plus retrouvé dans les documents, etc. Nous, nos enfants, il n'y a pas de souci, ils sont déclarés tous les ans à l'éducation nationale, donc en instruction en famille, les enfants sont déclarés chaque année, hein. Donc il y a Ce ne sont pas des enfants. En fait, on ne parle pas de la même chose. Lui, enfin lui, je dis lui ou les personnes de son gouvernement. On a entendu notamment Darmanin ou Schiappa parler de la même chose. Ils font des amalgames entre les enfants qui sont hors radar, donc ils ne sont pas déclarés en instruction famille, donc ce ne sont pas des instruits en famille, et ceux qui sont instruits en famille, en fait. Donc déjà, peut-être rechercher ceux qui ne sont pas instruits en famille avant d'interdire un mode de fonctionnement qui est tout à fait légal et déclaré et contrôlé, quoi. Et ça, après, ça, c'est autre chose. Moi, je pense qu'on, là, on n'est plus du tout dans quelque chose qui a trait à l'éducation ou à l'instruction. Là, on est dans quelque chose qui a trait au ministère de l'Intérieur, effectivement, quoi. Mais nous, on n'est pas... moi, je ne suis pas ministre de l'Intérieur, en fait. Hein. Et nous, ce n'est pas drôle d'aller trouver des solutions pour le ministre de l'Intérieur. D'ailleurs, qu'on retrouve ces aspects de la loi là, sur l'IEF, donc sur l'instruction et l'éducation, au sein d'un projet de loi qui est soutenu par le ministère de l'Intérieur, c'est aussi assez préoccupant, quoi, à mon sens.
Et est-ce que c'est un choix que vous avez déjà pu regretter ?
Moi, non, pas du tout.
Et enfin, dernière question, pour les personnes qui nous écoutent, est-ce que vous avez des films ou des livres ou des podcasts à conseiller pour qu'on puisse en savoir plus sur le sujet ?
Oula, oui, mais j'en ai beaucoup. sur l'éducation autodirigée, on va retrouver un film qui est top, qui s'appelle Être et devenir de Clara Bellard, qui est vraiment, vraiment bien fait. Après, au niveau des livres, on va trouver plein de choses. On va trouver le livre de Ramin Farhangi, qui a créé l'école dynamique à Paris il y a 5-6 ans maintenant. Qui s'appelle « Pourquoi j'ai créé une école où les enfants font ce qu'ils veulent ?» Le titre, je pense, est un peu provocateur, mais voilà. Moi, que j'ai trouvé vraiment bien fait, vraiment facile à lire, donc voilà. Ensuite, on a Alors, les Américains, surtout, parce que, comme je vous disais, ils ont plus de recul, plus d'expérience là-dessus. Donc, il y a Peter Gray qui a écrit le livre « Libre pour apprendre », qui est traduit en français, donc voilà. Et qu'on retrouve Peter Gray beaucoup sur YouTube, hein. Il fait beaucoup de vidéos, etc. Donc, pour ceux qui préfèrent la vidéo. Il y a également le livre de Daniel Greenberg qui s'appelle L'école de la liberté, qui parle de l'école Sudbury. C'est peut-être la première école démocratique américaine qui date de 68, je crois. Voilà, donc on a quand même un petit recul sur ce qui s'y passe et sur les personnes qui ont pu passer par cette école. Donc lui, dans l'école de la liberté, il explique bien comment fonctionne, enfin voilà, le mode de fonctionnement de l'école et voilà, c'était assez intéressant. Après, sur les apprentissages autonomes spécifiquement, il y a John Holt qui est un pédagogue, il me semble américain aussi ou anglais, je sais plus, qui décrit très bien ce que sont les apprentissages autonomes. André Stern aussi, qui lui est un contemporain, hein, qui a écrit un livre qui s'appelle « Et je ne suis jamais allée à l'école ». Donc voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Et du coup, aujourd'hui, bah, on le voit dans les réseaux aujourd'hui, il a pris clairement parti pour la défense de l'instruction, de la liberté d'instruction. Voilà.
Je pense que là, il y a une bonne collection.
Ouais, c'est ça, il y en a plein d'autres, mais voilà. Je pense que ça suffit.
Oui, ça fera déjà une bonne baisse pour les personnes que ça intéresse. Ouais. Bah, écoutez, merci beaucoup.
Bah, merci à vous.
C'était donc Aurélie Apriou pour nous parler de son choix de l'instruction en famille. C'est vous qui le dites, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site de Radio U. Jerry, huh? Let it go to the hundred la la. Man,
maneno mazio hei bahunde tunza Wenda koto sana maguro nikira huko uki maladola Nikisha ni rikaro Nifiri wacha itimo mbaseri wa mano Nikesi kali manafunze malakaro Kurunga kuzidi kuburungani charo Nisho wa siku mwana wana kwa sadaro I got back for the game ever since I was a kid Feeling like an answer proof ever I'll abide so conscious Bars in my head accommodated Shit I'm elevated damn it Na waka kama nuru sana tu follow Mambo ya kufulu sana tu follow Na waka kama nuru sana tu follow Mambo ya kufulu sana tu follow go, go. Yeah Zed beep watari kau pupu boy getting to the top without using no food Style hip boy kali ya mungu haki kipatikana inabidi tugae fumula Fuata taratibu za mhuni Yoki zinguota chase ya mangu mikanuni Nomo kifilisi kampuni Mwisho tajikuta na kueka kapuni Ona Aneba kima haram note dona Nanyonga marapa like zigi kila kona mbona Kila hera huu mwaka ata kona Navu wapa somo hii klasi kwa tasoma Ona kweli hini mote na wachoma Hawa sleep bars a drink kanya machoma Na wa overdose kama teja wanadona Legend ini make it a huge kama Radona Na waka kama nuru sana tu Follow, mambo ya kufulu sana tu follow. Na waka kama nuru sana tu follow. Mambo ya kufulu sana tu follow. Na waka kama nuru sana tu follow. Mambo ya kufulu sana tu follow. Na waka kama nuru sana tu follow. Mambo ya kufollow sana tu follow
go go follow What's up?
Radio U, une déclaration d'amour ou un peu de promo pour l'événement que vous organisez, laissez-nous un message au 02 98 03 82 61. 02 98 03 82 61. Nous le diffuserons tel quel dans le répondeur du studio sur le 101.1 le vendredi à 18h50.
Allô ? Allô ? We'll be right back.
Tu ne trouveras pas de tes semblables ici.